Hey, bonne semaine de la canne blanche.
Accès libre avec Luc Fortin.
Ben oui, c'est la énième semaine de la canne blanche qui démarre aujourd'hui ou hier. Enfin bref, on n'en parle pas aujourd'hui. Ben non, une station qui a comme public cible la personne handicapée visuelle ne parlera pas de la semaine de la canne blanche. Que voulez-vous? Il parle d'accessibilité du web, ce qui est rien de nouveau pour nous. Par contre, on peut déjà vous dire que Christiane va nous faire une petite revue de presse parce que ce que l'on souhaite du côté des organismes pour la... disons, avec une déficience visuelle, c'est d'alerter les médias. Alors, on va voir dans la petite revue de presse de Christiane, lundi prochain, si l'effort a fonctionné. Aujourd'hui, par contre, il sera question, entre autres, d'insatisfaction des services à domicile du côté du Nouveau-Brunswick et d'une crainte de plus en plus répandue du côté d'employés lorsque vient le temps de travailler avec des personnes atteintes de santé mentale dans la région de Québec. Vraiment, il y a des gens qui passent des mauvais quarts d'heure. Christiane revient sur l'arrestation trop nombreuse de personnes sourdes par les forces policières américaines et arrestation musclée, j'entends. On va jaser, on va jaser avec Benoît Huot. Vous savez sûrement qu'il a pris sa retraite. Et il sera question de déneigement. Monsieur La Liberté, comment allez-vous?
Ça va très bien. C'était hier, Luc, le premier jour de la semaine de la carte blanche. C'est du 3 au 9 cette année.
C'est bien pour dire. Mm. La semaine commence un dimanche. C'est une bonne idée. Bonne idée. Merci de l'info. C'est donc Jean-Sébastien la mise en onde. Christiane Campagna qui est aux réseaux sociaux. Elle qui était dimestre, également recherchiste et à qui on va causer un peu plus tard. Je vous le disais, il sera question de déneigement puisque plusieurs personnes vivant des limitations fonctionnelles réclament un meilleur déneigement à Montréal. Ils étaient entre autres au conseil de ville de la ville-centre lundi dernier pour en parler. Émilie Lefrançois, qui est responsable des communications et du secrétariat de Execo. Bonjour Émilie.
Bonjour Luc.
On s'est croisés la semaine dernière. Vous étiez quelques-uns, quelques-unes à réclamer un meilleur déneigement, un déneigement plus prompt. Est-ce que c'est un dossier qui avance? Parce que c'est vraiment pas la première année qu'on parle de cet enjeu-là. Est-ce que ça évolue positivement?
Ça avance, je dirais que ça avance, mais ça avance très lentement d'ailleurs.
Un coup de pelle à la fois.
Oui, c'est ça. L'année passée, à pareille date, j'étais ici, l'Accès libre, pour parler de la même question. Donc, ça n'a pas beaucoup bougé depuis. C'est la raison là, pour laquelle on s'est rendu au conseil municipal la semaine dernière, c'est qu'on a l'impression que ça stagne un peu là, malgré tout le travail de sensibilisation qu'on fait auprès des élus. On multiplie les rencontres année après année, en arrondissement, à la ville-centre. On a plusieurs formations au niveau des services de travaux publics là, au fil des ans. On a un collègue là, qui met beaucoup d'énergie là-dessus. Puis malgré tous ces efforts-là, des appels à faire des correctifs là, par écrit, par téléphone, on voit pas beaucoup d'améliorations là, sur le terrain. Les critiques là, qu'on entend, bien, ce sont les mêmes année après année.
Ouais, je sais que vous deviez... vous aviez rencontré le responsable du déneigement, François Parenteau, qui vous avait dit... on va se revoir, rencontre qui n'a pas eu lieu malgré une relance de Execo. Depuis lundi dernier, est-ce qu'il y a eu prise de rendez-vous?
Non.
Mais voyons,
en fait, on est toujours en attente. Même son attaché politique, là, s'était engagé de façon très formelle à communiquer avec nous rapidement. Mm-hmm. Aucun retour d'appel de ce côté-là. Par contre, on a eu un appel de gens de l'opposition officielle qui veulent faire le suivi avec nous.
Oui.
Donc, on sent qu'eux, peut-être, vont pouvoir nous appuyer là, là-dedans, faire suivre nos demandes. On est en discussion avec des gens de l'opposition, possiblement, là, pour déposer un projet de motion au prochain conseil.
Quelles sont concrètement les zones là, qui devraient être priorisées, selon vous?
Bien, le nœud du problème, selon nous, puis en particulier pour les personnes qui ont une déficience motrice, mais je dirais que ça s'applique aussi bien là, aux aînés et à toutes les personnes qui ont des limitations qui affectent leur mobilité, c'est vraiment les débarcadères.
C'est... Donc ça, c'est pour le transport adapté.
Oui, pour le transport adapté. Il y en a devant les résidences des gens, il y en a dans les endroits publics. Puis c'est un endroit là, qui permet aux véhicules de stationner puis de permettre un embarquement sécuritaire. Ces débarcadères-là, ce qui arrive, c'est que souvent, ils sont tout simplement pas déneigés. Donc on va le matériel, les équipements, en fait, vont passer pour déneiger les trottoirs, mais ils vont passer tout droit, ils vont comme oublier les débarcadères qui, eux, vont rester enneigés là, pendant plusieurs jours, généralement là, jusqu'au ramassage de la neige. Donc, puis pendant ce temps-là, ben, ils ne sont pas utilisables. Ouais, donc, les gens peuvent se voir refuser leur déplacement par les services de transport adapté.
Pourtant, on nous dit que selon le protocole du déneigement, les débarcadères sont aussi importants que les arrêts d'autobus. Donc, ça devrait être fait en même temps, semble-t-il.
C'est ça. Présentement, il y a une politique du déneigement à Montréal qui a été adoptée en 2015. Puis, il y a un libellé là, qui dit que les débarcadères doivent être déneigés pendant ou immédiatement après le déneigement des trottoirs. Mmh. Nous, notre impression, c'est qu'on joue un peu justement avec la formulation. Là, le « immédiatement après », il est un peu élastique, là, disons.
Ouais. lorsqu'on regarde ces réalités, qu'est-ce qui... Parce que j'essaie de comprendre, bon, évidemment, les débarcadères privés, bon, disons, chez moi, je présume que j'en suis responsable. Les débarcadères... Dans les centres hospitaliers, est-ce que c'est l'hôpital qui est responsable? Comment ça fonctionne?
Oui. Généralement, tout ce qui relève du réseau de la santé, c'est le réseau de la santé qui va s'en occuper. Donc, à proximité des hôpitaux, tout ça, quand c'est sur leur terrain, ils vont le faire eux-mêmes. Par contre, les débarcadères privés devant les résidences, ça, c'est la responsabilité de la ville. C'est pas la responsabilité du citoyen. Parce qu'en fait, ce serait irréaliste de s'attendre à ce que les gens qui font une demande de débarcadère le déblaient eux-mêmes. Parce que généralement, ils ont des problèmes de mobilité, de vision, de déplacement. Donc, les gens font les demandes pour avoir un débarcadère, mais ensuite, c'est la responsabilité de la ville de l'entretenir.
Oui. Avant que les gens disent, mais franchement, Fortin, non, évidemment, je ne pensais pas à eux-mêmes, mais au même titre que si j'ai une toiture à refaire faire, je la fais faire par quelqu'un d'autre.
Oui, à leurs frais. Mais non, vu que c'est sur le domaine public, c'est la portion entre la rue et le trottoir, donc c'est vraiment la ville qui est censée s'en charger.
OK. Donc, une réponse des élus, disons, tiède jusqu'à maintenant. On s'est empressé du côté de l'opposition. Est-ce qu'on peut, parce que là, aujourd'hui, c'est du petit grésil. Jeudi, encore du grésil. Les attentes réalistes d'Émilie et du groupe?
Mais en fait, nous, on planche vraiment pour l'année prochaine. En fait, on va continuer de mettre la pression au cours des prochaines semaines, des prochains mois, mais on s'attend à ce que les correctifs là, soient intégrés dans le plan directeur plus l'année prochaine. D'ailleurs, suite à notre passage...
Mais c'est pas le plan directeur, le problème. C'est l'exécution de celui-ci. Mais, c'est ce que je comprends.
Oui, mais le plan directeur, en fait, prévoit pas de mesures, en fait, dans les plans de travail, dans les devis, dans les contrats, tout ça. Donc, il y a une intention qui est annoncée dans la politique qui dit on doit les faire. Mais par exemple, quand on descend dans le concret, dans comment les ordres, en fait, les ordres d'ouvrage sont donnés, tout ça, il n'y a rien. Là, c'est le trou vide. Donc, on passe de la politique au terrain, puis là, le message ne circule pas. Donc, puis nous, on pense que c'est pas quelque chose qui doit être laissé à la discrétion des gens qui font le travail sur le terrain. Il faut que ce soit prévu là, directement dans leurs directives, dans les contrats, parce qu'en l'arrondissement, ça va varier la proportion de ce qui est fait au privé versus là, ce qui est fait par l'école bleue. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit prévu là, explicitement dans les clauses. Il faut dire, si vous avez un contrat pour déneiger X nombre de kilomètres de trottoir, ben ça inclut également X nombre de débarcadères.
Bien sûr. Émilie, est-ce qu'on a remarqué une différence positive ou négative depuis que la Ville-Centre a repris le contrôle du déneigement?
Pour être honnête, je travaillais pas sur ce dossier donc avant le rapatriement à la Ville-Centre, donc ce serait dur pour moi de me prononcer là-dessus. Par contre, ça fait quand même deux hivers que je travaille la question là, de façon assez intensive, puis ça fait deux hivers que c'est très, très difficile.
Est-ce que il y a des arrondissements ou des où on reçoit plus de plaintes que d'autres?
Au niveau des plaintes qui sont adressées au 3-1, je ne pourrais pas répondre. Mm-hmm. Par contre, ce que je peux dire, c'est que... l'année dernière, on a réalisé une enquête de satisfaction, justement, un projet qui s'intitulait l'Escouade de neige. Puis, il y a des arrondissements là, où la problématique s'est avérée plus criante. C'est des arrondissements, en fait, là où on a plus de plaintes, c'est les arrondissements où il y a beaucoup de personnes avec une déficience motrice qui résident. Donc, les arrondissements centraux comme Hochelaga-Maisonneuve, Le Plateau, Villeray, ce sont des arrondissements où il y a beaucoup de gens qui se déplacent avec des aides à la mobilité et c'est des arrondissements où c'est très, très difficile.
Pourtant, le plateau et Villeray avaient, bon, c'est pas nécessairement pour les débarcadères, mais avaient quand même mis de l'avant des initiatives, que ce soit le programme Tappel, bon, la brigade des neiges, est-ce que... Puis ça, c'était des arrondissements qui appartenaient à Projet Montréal, à l'époque, alors que M. Coderre était en poste. Et là, vous me dites que depuis 2 ans, donc depuis que Projet Montréal est là, c'est comme peut-être qu'il y a un petit recul. Est-ce qu'on peut expliquer ça?
C'est difficile à expliquer, mais tout ce que je peux dire, c'est que les programmes que tu mentionnes, donc le programme avec Tappel, tout ça, c'est des programmes qui ont quand même une portée limitée. Notamment dans Schlager-Maisonneuve, ils en ont lancé un cette année, un projet pilote qui fonctionne de la même façon. Donc, les gens peuvent s'inscrire pour faire déneiger leur entrée puis tout ça. À ma connaissance, ça inclut aussi...
Ou leur débarcadère.
C'est ça, ça inclut le débarcadère quand les gens en ont un. Mais je pense qu'il y aurait un effort aussi à faire au niveau de la ville pour publiciser ces programmes-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont besoin, qui sont au courant que ça existe. Puis, je sais que sur le plateau Mont-Royal, les places étaient limitées aussi.
En tout cas, côté médias, il y a quand même quelques articles qui ont parlé de la question. Dernière question, tiens, au niveau stratégique, j'y étais la semaine dernière. Je pense qu'il y a eu 6 questions qui, somme toute, se ressemblaient les unes les autres. Moi, comme auditeur, je me disais, mon est-ce qu'on peut passer à autre chose? Il me semble que ça retarde le processus de la période de questions en général. Est-ce que c'est voulu? Pourquoi cette stratégie-là de poser 6 fois la même question par 6 personnes différentes?
Mais en fait, il y a un peu une coïncidence qui s'est produite la semaine passée, puisque nous, on avait prévu effectivement 3 questions similaires, mais pas exactement pareil, mais il s'est avéré qu'il y avait des citoyens qui n'étaient pas rattachés à Execo qui venaient parler de déneigement.
C'est bien pour dire.
Oui, c'est ça. Donc, on voit que c'est un sujet qui retient l'attention de pas mal de gens. Mais nous, nos questions, on a essayé quand même de varier dans la mesure où on parlait à la fois de la politique, puis c'était un appel à la relance, en fait. On relançait vraiment le monsieur Parenteau pour qu'il donne suite à nos demandes de rencontre, puisqu'on veut rétablir le dialogue. Mais c'est certain que ça peut être un peu là, tannant pour les gens qui en entendent parler hiver après hiver, mais il faut dire que les gens aussi sont tannés de vivre les mêmes problèmes.
Mais je comprends tout à fait et j'espère qu'on n'en reparlera pas l'an prochain, si ce n'est que pour dire qu'il y a amélioration. Les responsables des communications et du secrétariat de l'organisme Execo. Merci Émilie Lefrançois.
Et merci Luc.
On va causer avec Benoît Huot qui a décidé de plonger dans la retraite.
And I took a look around.
Midnight in Harlem, Tedeschi Trucks Band. Salutations, Benoît Huot.
Salut, Luc, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Ben oui, ça va super bien.
Bon, première question, est-ce que tu veux que je démarre une cabale pour te trouver un siège au Sénat?
C'est bon, ça!
Parce que je peux m'arranger, là.
Ouais,
bon,
ouais,
ça sera pas réglé cette année, mais il y a de quoi à faire.
Ouais. Bon, disons que sur 100, quoi, 104, 105 sièges... au Sénat, d'en retrouver deux qui ont passé par un cheminement similaire, c'est quand même pas évident. mais pour ce qui est de la politique, on ne doit jamais dire jamais, peut-être un jour, mais à court terme, j'essaie de terminer mon programme académique et passer un peu de temps avec la petite Mila à la maison.
OK. Bonne réponse.
Une réponse de politicien.
Ouais, non, mais c'est ça, tu pratiques pour plus tard. Bon, Benoît, ça fait quand même quelques années, là, depuis 2016, il est question de ta retraite. C'est un petit peu comme, je me souviens, Benoît Saint-Amand, à chaque fois que je le croisais, je lui disais « Bon, quand est-ce que tu vas l'annoncer? » Finalement, l'ex-gardien, lui aussi, a passé à autre chose. Après... avant Sochi, je pense. Ouais. Après Sochi?
Okay. Ouais, après Sochi, oui.
Comment t'es arrivé à dire « Bon, mais là, c'est le moment. » Est-ce que c'est parce que t'as eu des offres, disons, pour travailler ailleurs? Est-ce que... Comment on décide, OK, c'est telle date, tel moment?
Bon, ça faisait... je pense que la décision était prise depuis quelques semaines, quelques mois. Puis là, c'était, bon, c'est plus pour ce qui est de la journée, là, c'était vraiment plus une question de timing. Mais en 2018, on a eu plusieurs réflexions. Je me suis posé la question, est-ce que je vais aux prochains Jeux paralympiques de Tokyo en 2020 comme athlète? Et j'ai regardé, j'ai analysé, j'ai songé et j'ai réalisé rapidement que être un athlète à Tokyo était une possibilité. J'aurais certainement pu représenter le pays pour une sixième fois, mais j'aurais pas été compétitif. Ah ouais. Et ça a toujours été important pour moi de. Je suis très compétitif. C'était pas juste pour participer. Et j'ai senti que j'avais sûrement l'habilité d'influencer, de continuer à faire grandir le mouvement paralympique en étant à l'extérieur des bassins. Alors, quand j'ai constaté ça, je me suis dit, Gaben, je pense que les objectifs sportifs ont été réalisés. C'est le temps d'accrocher son speedo et puis passer à autre chose.
L'an dernier, il y avait les Jeux du Commonwealth à Gold Coast en Australie. Je crois que tu y étais, mais plutôt comme, disons, protocole mentor que comme compétiteur. Est-ce que ça t'a manqué d'être là puis de pas plonger?
Ouais, c'est sûr que j'aurais aimé d'être dans la piscine. Puis c'était pas par choix, c'était par circonstance. Lors des Jeux du Commonwealth, il y a une intégration progressive qui se fait pour les para-athlètes, mais c'est pas un programme complet. Alors malheureusement, j'aurais souhaité avoir une épreuve parce que ça aurait été peut-être mes derniers grands Jeux. Ouais. Ça n'a pas été malheureusement comme athlète. Mais ma catégorie, mon épreuve n'était pas disponible au programme. Alors, ça n'a pas été une option. Mais alors, quand ça a été dévoilé, j'ai été demandé pour être chef de mission adjoint à la délégation canadienne. Alors ça a été une super expérience. Ça a été effectivement, ça faisait drôle de pas être dans la piscine après autant d'années, mais d'avoir un regard un peu différent, puis accompagner les athlètes dans leur interrogation, être un petit peu le grand frère des athlètes et les accompagner dans leur expérience aux Jeux du Commonwealth.
Est-ce que ça a été une bonne préparation pour Tokyo comme chef de mission?
Oui, ça l'a été, mais je pense pas par contre que je vais appliquer.
Ah, tu dirais OK, tu dirais non.
Oui, parce que la raison de ça, puis ça c'est très personnel, mais en même temps, il n'y a rien de garanti. Peut-être qu'il va y avoir un meilleur candidat ou une meilleure candidate rendue là, mais j'aimerais drôlement avoir ce titre parce que ça arrive pas mal juste une fois dans une vie, là, une fois dans une carrière d'être un chef de mission. Puis j'aimerais ça pour 2024 à Paris. Alors, tu sais, on parle français, c'est un peu nos origines. Alors, tu sais, si j'ai à le faire, je préférais de loin attendre, passer Tokyo, passer Pékin 2022, les Jeux d'hiver. Ça, c'est sûr que je suis moins attaché avec les Jeux d'hiver, mais me concentrer sur Paris 2024.
Et c'est particulier peut-être à dire, mais la carrière que tu as menée, selon moi, te donne le droit de choisir. Certains vont peut-être dire, hey, franchement, là, si jamais le gars reçoit l'offre puis qu'il lève le nez parce qu'il dit, oh non, c'est pas celle-là que. Non, moi, je pense qu'après tout ce que tu as fait, tu as amplement le droit de dire, je passe mon tour, mais 2024 pourrait m'intéresser.
Pour que les gens sachent, c'est à nous d'appliquer aussi.
OK.
Alors, tu sais, c'est pas. Je pense que je leur ai déjà dit. Que 2024, peu importe ce qui arrive, vous allez avoir mon nom dans le pot. Mais alors, je vais juste éviter de mettre mon nom de l'avant pour 2020. Puis aussi, l'autre truc, c'est que c'est un petit peu tôt, hein. On est à un an et demi des Jeux de Tokyo. Et tu sais, ce serait pas mauvais nécessairement d'avoir un détachement par rapport à l'équipe présente.
Même si tu les as croisés l'année passée aux Jeux du Commonwealth.
Oui, mais c'est parce que c'est. D'avoir le rôle de chef, tu sais, un adjoint, là, tu réponds un peu aux demandes que le chef n'est pas capable d'accomplir. Alors, je dirais pas non à être chef pour 2022, quand je dis 2022, ça serait les Jeux du Commonwealth. Alors ça serait vraiment une belle expérience. Puis ça veut pas dire que tu peux pas faire les Jeux paralympiques parce que c'est deux jeux complètement différents. Ouais. Alors ça, j'aimerais ça. Mais bon, à voir, là, il y a tellement de choses qui. Il y a de l'eau qui vont couler sur les ponts d'ici là.
Bon, il y a sûrement quelques offres que tu as reçues. Moi, je ne t'ai pas envoyé la mienne parce que je n'ai pas les moyens, bien que je travaille sur quelque chose et j'aurais bien aimé pouvoir t'inclure là-dedans. Est-ce que tu en as reçu plusieurs? Est-ce que tu peux, disons, choisir quelque chose Parce que je t'ai entendu la semaine passée dire « Ah, j'aimerais ça être un partant. »
Hey. Ouais, ouais. Mais pour ce qui est média, j'en fais un petit peu. Mm-hmm. Donc, je suis un éclaireur à la première chaîne depuis quelques années. Je fais les sports paralympiques. Là. J'ai eu la chance d'aller à Pyeongchang, Sochi, Vancouver. Ça, c'est une fois quatre ans. Là. Mais je vais t'avouer que je suis extrêmement privilégié, Luc, de cet automne, quand j'annonçais à mes différents partenaires, mes partenaires d'athlètes, là, comme mes différents commanditaires, je leur ai annoncé que j'accrochais mon maillot et puis la carrière était derrière moi. Puis à ma grande surprise, la plupart d'entre eux ont voulu poursuivre l'aventure, malgré le fait que j'étais pas athlète. Alors quand je l'ai mentionné, tant qu'à faire, tu sais, ils ont été là durant ma carrière, ils vont être là encore pour la suite. Puis on a différents mandats, autant avec Canadian Tire puis la Fondation Bon Départ, pour aider les jeunes à s'épanouir par le jeu. Alors, tu sais, qu'on soit athlète ou pas, tu sais, maintenant, je vais avoir un petit peu plus de temps à donner à la prochaine génération. Alors, Canadian Tire, on a encore des beaux trucs ensemble. Trivi, auquel on est en train de développer une piscine pour les gens à la maison qui est adaptée pour les nageurs. Alors ça me rend extrêmement fier. C'est du jamais vu là, au Canada. Alors ça va sortir là, au printemps 2019. Blue Bridge, c'est une entreprise qui sont là pour chapeauter les athlètes amateurs, autant olympiques que paralympiques, pour les aider à construire la fiducie d'athlètes amateurs qui vient les structurer. Le mot c'est fiscalement parlant, si on veut, pour les aider à la transition de leur carrière d'athlète. Okay. Alors, moi, je suis un peu un porte-parole pour l'entreprise. Alors, tout ça pour dire que ça m'a agréablement surpris parce que j'ai des beaux partenaires. Il y a des belles choses qui s'en viennent d'ailleurs que je peux pas annoncer, mais ça m'a touché, ça m'a surpris. Alors,
tu n'as pas l'inquiétude de l'épicerie content à la fin de la semaine pour le moment, là. Ça va bien.
Ça. Peut-être dans quelques mois, là.
Je comprends.
Pour le moment, ça va bien. Le grand défi présentement, parce qu'on vient toujours d'accueillir la belle Mila dans nos vies, c'est pas le bébé, c'est l'école. Je suis retourné sur les bancs d'école. Luc, je fais un MBA à l'Université de Queens à Kingston qui est offert un week-end sur deux. Il me reste 12 mois à compléter. Puis ça, je te dis, ça prend toute ma concentration.
Je comprends. Petite question vite. Il me reste 40 secondes. Le fait qu'on ne sache pas encore où auront lieu les championnats du monde de natation et quand, comment ça influence le programme des nageurs actuellement?
Je pense qu'il faut pas trop s'y attarder. Il faut se concentrer, s'entraîner. Les championnats, ils vont avoir lieu pas mal dans le même horizon de temps que
ce qui était prévu en Malaisie. Là.
Et j'ai l'impression que ça va être dans la même région du monde. Alors, présentement, il y a des rumeurs là, sur Singapour, Australie ou même le Japon un an avant Tokyo.
OK. Merci beaucoup, Benoît. Bravo, bravo. On a voulu faire différent. Si vous voulez avoir les statistiques de la carrière de Benoît, tous les journaux en parlaient la semaine dernière. Nous, on parle des sourds et des forces policières américaines après la pause.
Vous écoutez Accès libre.
Avec Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, elle est Eddy Mestre, recherchiste, et devant moi, Christiane Campagna.
Bonjour.
C'est assez particulier le sujet dont tu parles aujourd'hui. Tu m'as envoyé un extrait vidéo où on fait des blagues là-dessus, on veut sensibiliser. Il paraîtrait qu'autour de 25% des assassinats commis par les policiers en travail seraient dirigés vers des personnes avec un handicap. C'est capoté.
Oui, et là, on parle d'un segment de l'émission Full Frontal with Samantha Bee, une humoriste américaine qui a, depuis l'an, un peu avant les élections de 2016, a obtenu son propre spectacle. Elle a longtemps, son propre show. Elle a longtemps été correspondante au Daily Show à l'époque de Jon Stewart. Et c'est un segment donc qui s'appelait Stop Doing That, a Police Retraining Program. En fait, la prémisse, c'était un peu comme si ça avait été une formation pour les policiers de laquelle il y aurait eu d'autres épisodes avant qui concernaient les personnes racisées. Et là, on parle plus particulièrement dans cet épisode-là des personnes sourdes. Ouais. Qui sont souvent victimes de violences lors d'arrestations. Et la personne avec qui elle en a parlé s'appelle Niall DiMarco. C'est un activiste, il est très actif sur les médias sociaux. Il est connu du grand public pour avoir gagné le concours America's Next Top Model en 2015.
Il est-tu beau? Parce qu'une couple de fois, quand il est arrivé sur scène, là, j'ai entendu la foule réagir.
Oui, puis il y a le bout où il enlève son chandail pour mieux attirer l'attention. C'est un très, très bel homme, vraiment. Okay. Il a aussi participé à Dancing with the Stars. Donc, il utilise beaucoup ses tribunes pour parler, pour sensibiliser les gens à la condition des personnes sourdes, pour militer pour que la langue des signes américaine soit reconnue comme une langue officielle. Mm-hmm. Et là, ben c'est ça. Sous couvert de l'humour, on a noté différents problèmes qu'il y a dans les interactions des personnes sourdes avec les policiers sous forme de différents conseils. On a commencé en disant que la langue des signes, oui, elle est expressive, mais elle n'est pas agressive. Mm-hmm. Parce que c'est un des premiers problèmes rencontrés. Quand la personne vient pour s'exprimer, c'est vu comme la personne devient très animée,
ouais,
surtout.
C'est ça.
Et c'est vu comme de l'agressivité. Et souvent, ça provoque une arrestation assez robuste. Mm-hmm. L'autre chose, on ne peut pas prendre pour acquis qu'une personne sourde peut lire sur les lèvres. Chose peut-être à cause de la télévision, à cause de certaines personnes plus médiatisées qu'on prend pour acquis. C'est difficile, ça peut mener aussi à beaucoup de mauvaises interprétations. Et ce qui, dans une situation où on a besoin d'informations claires et précises, n'est pas l'idéal. Aussi, ne pas prendre pour acquis qu'une personne sourde peut lire et écrire facilement l'anglais.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et ça, c'est drôle parce que j'ai poursuivi mes recherches. Après, je suis tombée sur une autre vidéo. C'était une vidéo de l'American Civil Liberty Union où l'actrice sourde Marley Martin donnait des conseils. Et elle a conseillé de prendre des notes, a conseillé de demander des notes, et ça ne tenait pas compte de ce fait-là, mm-hmm. que c'est souvent un problème, souvent ça a rendu difficile l'éducation primaire des enfants, et ça veut dire que la personne ne sera pas nécessairement fluide, disons,
oui, parce que
en anglais.
La structure d'une langue signée est bien différente de la structure d'une langue parlée.
Voilà, c'est en soulignant qu'il s'agit d'une autre langue.
Oui, tout à fait.
Qu'il faut appeler un interprète certifié.
Ouais.
La vidéo montre beaucoup d'exemples où c'est des policiers sur place, 10 ans, capables de le faire, font des erreurs. On montre aussi un extrait d'une annonce d'un politicien lors d'une catastrophe, un avis d'évacuation, quelque chose comme ça. Et au bas de l'écran, on pouvait voir ce qu'a signé la personne qu'on a pris et ça faisait aucun sens.
Ah oui,
hein?
OK, j'ai manqué
et
cet
donc, aspect-là. Oui, il faut appeler un interprète certifié, surtout qu'aux États-Unis, c'est requis par la loi, par l'ADA. Donc, c'est vraiment obligatoire.
Moi, ce qui m'a étonné, c'est l'histoire de la carte qu'on met dans sa voiture pour expliquer qu'on est une personne sourde.
Oui, ils ont montré des exemples où ça ne fonctionne pas parce que les policiers, la personne n'a même pas eu le temps de se rendre à cette étape-là parce que les policiers ont fait une arrestation rapide, vigoureuse.
Manu militari, oui.
Voilà, c'est ça. Mais on en parlait un petit peu avant le début de l'émission. Hein. Il y a ce climat aux États-Unis qui fait que, puisque tout le monde peut avoir une arme, je pense que les policiers sont vraiment à cran, sont toujours prêts à... ont peut-être davantage peur pour leur vie. Et donc, sont toujours prêts à réagir de manière très, très prompte.
Donc, c'est sûr que si tu veux ouvrir ton coffre à gants pour sortir une carte qui valide ton identité de personne sourde, c'est sûr que ça peut créer un remous, d'où l'importance de proposer, voire imposer des programmes de formation pour mieux desservir ces populations-là.
C'est ça, parce qu'il y a toutes sortes de petits détails, mais je disais dans un article sur un événement qui a eu lieu en Ontario, si vous arrêtez une personne sourde qui s'exprime en langue des signes et que vous lui mettez des menottes derrière le dos, ce serait l'équivalent d'arrêter quelqu'un qui parle et de lui mettre du duct tape sur la bouche.
Oui, c'est ça, de le baïonner.
Voilà, exactement.
Aïe, aïe, aïe. Alors, oui, l'animateur a mis la recherchiste sur le dossier. On veut savoir ce qui se passe au Québec, que ce soit pour les sourds, les personnes avec des troubles de santé mentale ou comment intervenir de façon adéquate lorsque la personne que l'on interpelle n'est pas nécessairement le profil qu'on nous a présenté à Nicolet.
On pourrait se demander quand est-ce qu'Infoman se décidera à faire des sujets qui concernent les personnes en situation de handicap?
C'est une autre question très, très intéressante. Pendant que Maritza est partie prendre son dîner, on va juste vous dire que c'est Maritza qui s'en vient peut-être. Jean-Sébastien? Christiane, est-ce que tu vois mon Jean-Sébastien de l'autre côté ou il est... Ah, la voilà! Donc, si elle, on l'entend, j'imagine que lui est là.
Je t'ai tenu la main trop longtemps. Je me voyais plus petite que j'étais.
Les miroirs avec Maritza. Tu voulais me niaiser parce que c'était la semaine de la canne blanche, Jean-Sébastien?
Non. Expliquons ce qui se passe en coulisses. J'ai pesé sur play, j'ai fermé les micros, j'ai fermé le volume de mon côté pour appeler notre invité pour pouvoir l'entendre comme il faut. Puis, ben, il y a eu une erreur à quelque part et puis le volume était baissé en onde aussi. Ce qui fait que moi, il a fallu que tu m'interpelles pour que je me rende compte de ma bévue.
Et c'est très drôle parce que ne voyant pas, je me disais, coudonc, y es-tu parti? Est-il... Enfin bref, voilà. Notre invité est au téléphone, Jeff Begley, qui, lui, est président de la Fédération de la santé et des services sociaux. On lui parle parce que des travailleurs des centres de réadaptation en déficience intellectuelle craignent pour leur sécurité de plus en plus. Pour avoir lu des articles là-dessus, c'est assez particulier et inquiétant ce que certaines subissent. Bonjour, M. Begley, comment allez-vous?
Je vais plutôt bien, merci vous.
Oui, merci, c'est gentil. Est-ce que la situation, selon vous, est attribuable aux coupures que l'on a connues dans les dernières années, à un manque de formation? Qu'est-ce qui fait qu'on dirait qu'il y a, disons, une certaine recrudescence d'événements fâcheux, de violence sur du personnel?
Oui, mais c'est clair que depuis la réforme Barrette, quand on voit cette recrudescence-là, l'augmentation de nombre de problèmes qui sont soulignés, c'est clair qu'il y a un bout là-dedans. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Moi, je peux vous dire que chez nous, je me rappelle depuis à peu près milieu 2005-2006 quand on avait des différents comités qui travaillaient améliorer la prévention dans ces milieux-là. Parce que l'idée de base, la création des résidences, c'est génial. Mais puis à long terme, c'est une belle façon de faire de la prévention pour les usagers. Mais si on ne met pas les ressources nécessaires au bout de l'exercice, ça donne des résultats où il y a des normes de déclaration auprès de... CNEST, ça augmente.
Ouais, et une des ressources que l'on souhaite, si j'ai bien compris, c'est de voir un agent de sécurité qui serait dans chaque centre. Je lisais un article où, entre autres, il y a eu un patient en état de crise et l'employé a été victime. L'agent de sécurité lui-même n'a pas pu arrêter la crise. Il a été obligé de quitter en plein milieu de son shift parce qu'il était blessé. Personne ne l'a remplacé. Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'agent de sécurité partout dans ce type de lieu où on peut craindre pour la sécurité?
D'ailleurs, il existe un type d'emploi qui s'appelle agent d'intervention. C'est un genre de préposé qui est justement formé aussi en termes de sécurité puis d'intervention dans des situations qui peuvent devenir risquées soit pour le personnel, soit pour les autres bénéficiaires. Donc, ouais. Avoir ce type d'intervenant-là, c'est vraiment le meilleur. T'sais, un agent de sécurité, au moins, t'sais, peut intervenir quand il interviendra dans toute autre situation, mais avoir un agent d'intervention qui est spécialisé là-dedans, c'est pas comme intervenir dans un bar lorsqu'il y a quelqu'un qui veut se battre avec un autre.
Non, c'est ça, c'est pas un
Donc,
portier.
Ça prend une formation particulière, puis ça fait longtemps qu'on revendique l'augmentation du nombre de personnes, puis il faut qu'ils soient là en permanence, ça c'est clair.
Quel est le ratio personnel et membre... à charge?
Mais ça varie beaucoup, mais dans la plupart des résidences, c'est genre, tu sais, c'est style une maison là, où on peut avoir 5-6 chambres.
Okay.
Donc, règle générale, là, ça varie, là, ça peut aller jusqu'à 12-14 personnes.
Oh.
Souvent, c'est moins que ça. Là, souvent, c'est dans les 7-8 personnes.
Okay.
Donc, puis la nuit, mais c'est monnaie courante qu'il y a une personne. Puis, dans le jour, ça peut varier. Évidemment, s'il y a des activités, puis des personnes qui accompagnent à l'extérieur, mais souvent, il va rester une personne dans la résidence, aussi en soirée, parce qu'il y a des choses qui se passent. Donc, ça varie beaucoup, mais l'autre chose qui me semble, parce que ça, c'est l'autre chose qui est un peu préoccupant, avec la réforme, la direction n'est plus sur place. Ils sont dans le CIUS, donc, moi, il me semble que si on veut faire de la prévention, on s'organise pour faire des comités avec du monde sur place. D'ailleurs, moi, je pense que ça serait une des solutions. Si on reconnaissait le secteur de la santé, puis ça comprendrait le monde qui travaille dans les RAC comme un groupe prioritaire en santé et sécurité. Avec l'augmentation de nombre de places, mais là, il y a une obligation de part et d'autre s'asseoir et faire de la prévention. Et regarder comment on peut faire la prévention, non seulement pour le monde qui travaille là, mais je répète, aussi pour les autres bénéficiaires.
Est-ce que la clientèle a changé?
Mais c'est clair que ce qu'on nous dit dans ben des cas, c'est que, étant donné le manque de place dans le bain des ressources, ça fait en sorte que les personnes qui viennent au RAC deviennent de plus en plus lourdes. Ça, il y a une constatation de ça, parce que il y a moins de place dans les places institutionnalisées, entre guillemets.
Ouais.
Donc oui, il y a une constatation que ça devient plus lourd. Sur en soi, c'est pas insurmontable s'il y en a les ressources sur place.
Et justement, bon, je sais que parfois, entre autres pour les infirmières, on est en pénurie. Est-ce que le personnel pour les résidences est suffisant? C'est-à-dire, pas le budget, mais est-ce qu'il y a suffisamment de personnes formées? Ensuite, bon, est-ce que l'argent suit?
Mais moi, je pense que c'est la clé du problème, c'est qu'il n'y a pas assez de monde sur place. Évidemment, il y a un bout de ça qui est budgétaire. Ça, les coupeurs au niveau du personnel régulier là, dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis la réforme, c'est hallucinant.
Oui, c'est sûr. Jeff Begley est président de la Fédération de la santé et des services sociaux. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Mais ça fait plaisir à n'importe quand.
Tout le monde adorait quand moi de mes tapais, mais t'ouvrais juste ton châssis quand tout était prêt. T'as fait ta page de gravy, patates sont pelées aussi. La graisse est bien chaude, let's get the show on the road. Tu faisais fureur dans la région chaleur, on oubliait nos régimes, le temps d'une poutine. Half gravy, half barbecue, le monde virait fou. Je serai jamais trop pleine pour manger chez Lucienne. Mais le soir, quand le story est fini, tu rentres chez toi, tu watches la TV. Tu rêves de gagner la fortune pour ne plus jamais toucher à une autre poutine. Ça grossit à chaque année, les chemises sont plus serrées, les ceintures craquent, mais toi tu t'en sac. T'as hâte que l'été se tasse pour retourner à Vegas. Un soir en fermant ta cantine, le téléphone a sonné dans la cuisine. On t'a entendu crier jusqu'à Tirachena. La prochaine candidate à la poule aux œufs d'or. La rumeur a pogné dans la communauté que si tu gagnes, tu vas rajouter une terrasse en arrière, une licence pour la bière. Quand le story est fini, tu rentres chez toi, tu watches la TV. Tu rêves de gagner la fortune pour ne plus jamais toucher à une autre poutine. Le mercredi soir à 7h30, la paroisse est plantée devant leur TV. Les doigts croisés, ils t'ont vu gagner. Ils souhaitent que tu restes ouvert à l'année. Le bogeyman grince, t'a serré la main, il t'a donné ton chèque, il dit repose-toi bien. Puis c'est ce que t'as fait. T'as pris ta retraite, t'as pu jamais manger une autre frite. Depuis ce temps-là, tout a changé, l'espérance de vie a dû doubler. Tout le monde est slim, ça va tout au gym. Mais ça s'arracherait la face pour une de tes poutines. Puis le soir, fini. Je rentre chez moi, puis je vois la TV. Je rêve de gagner la fortune pour ma chérie. acheter la recette secrète de ta sauce brune.
La poule aux œufs d'or avec les Hey Babies. D'ailleurs, c'est la semaine de la poutine au Québec. Je ne sais pas si c'est la même chose au Nouveau-Brunswick. Là où il y a des grandes insatisfactions en ce qui a trait aux soins à domicile. Et pour en parler, Stéphane Robichaud, lui qui est directeur général du Conseil de la santé au Nouveau-Brunswick. Salut, M. Robichaud. Merci d'être là.
Ah, bienvenue. Merci pour l'opportunité.
Parlez-moi un peu du sondage. Qu'est-ce qui a transpiré de ces insatisfactions?
Alors d'abord, simplement pour le mettre en contexte, le Conseil de la santé fait des sondages sur l'expérience vécue par les gens des services de santé, différents services de santé. Et un de nos trois sondages qui vise les services de santé primaires, pour celui-là, on vise des cibles de répondants pour chaque petit coin de la province. Le Nouveau-Brunswick, c'est une province avec une petite taille de population, mais qui est très rurale. Mm-hmm. Et avec ce sondage-là, on a cherché à mesurer est-ce qu'il y a des besoins pour vous habiliter à rester à la maison qui ne sont pas répondus. Et à partir de ces quelques questions-là autour de ce thème-là, on a pu faire une projection qu'il y avait approximativement 38 000 néo-brunswickois qui auraient des besoins de services pour les garder à domicile, et à peu près 42 % de ceux-là ont des besoins non répondus.
Ouch! OK. Est-ce qu'on a pu mettre le doigt sur les besoins particuliers? Parce qu'il y en a...
Ce qu'on sait à partir du sondage, c'est qu'il s'agit surtout de soutien à domicile. Mm-hmm. Dans le cas du Nouveau-Brunswick, nous ici, parmi nos services à domicile, on a ce qu'on appelle le programme extramural, où on a des infirmières et autres professionnels de la santé qui peuvent faire des visites à la maison. Mais l'autre catégorie, c'est ce qu'on appelle des services de soutien à domicile. Et dans ce cas ici, la majorité, c'était des services genre donner des bains, entretien ménager ou préparation de repas.
Mmh. Et je présume qu'il y a quand même le privé qui prête main forte au public?
On a, dépendamment des régions du Nouveau-Brunswick, parce que les compagnies ne desservent pas nécessairement tous les coins. Alors, on a différents types de services, certains privés, oui, certains but lucratif, but non lucratif. Mm-hmm. L'examen pour nous, ce que ça met en lumière, c'est le besoin d'améliorer l'évaluation des besoins, justement.
Ah, OK.
L'identification des besoins, c'est ce que ça nous permet de faire. On n'a pas nécessairement les détails en arrière de, tu sais, on parle de quel genre de service, si on regarde à une communauté typique du Nouveau-Brunswick. On a sous-divisé le Nouveau-Brunswick en 33 communautés. Et d'ailleurs, à partir de notre site web, les gens peuvent voir où se situe chacune des communautés en termes de proportion des gens qui ont besoin des services à domicile, mais qui ont des besoins non répondus.
Mais est-ce que j'entends que l'outil est encore à perfectionner? Exemple, on n'arrive pas à savoir si le privé répond mieux aux besoins que le public ou des choses comme ça?
Définitivement qu'il faut perfectionner ça davantage. Il faut savoir aussi que le Conseil de la santé ne gère pas ces services-là. Nous, notre travail, c'est de faire rendre compte publiquement sur la performance des services.
Ouais.
Et pour ce faire, on devrait pouvoir tirer ce genre d'informations-là des organisations qui gèrent ces services-là. Ce que l'on ne peut pas faire, parce qu'on n'a pas nécessairement un historique de faire ce genre de mesures-là. Mmh. Et la raison pour laquelle nous, on sort publiquement avec des mesures comme ça, c'est d'ailleurs pour essayer d'encourager le système d'incorporer davantage ce genre d'exercice-là dans leur travail pour mieux évaluer les besoins, mieux planifier les services et mieux les gérer aussi.
Bien sûr. Est-ce que vous avez remarqué des disparités régionales?
Absolument. Ah, justement, oui? Ça souligne réellement qu'il faut s'y attarder communauté par communauté. Mais de façon générale, le nord du Nouveau-Brunswick semble avoir une plus grande proportion de services ou de besoins non répondus que le sud. Toutefois, quand on regarde les résultats par communauté, la communauté qui a le plus grand pourcentage de besoins répondus, c'est en fait Caraquet, qui est bel et bien au nord de la province.
Ben oui.
Et celle qui a le 75% des besoins non répondus, c'est une communauté qui s'appelle Hillsborough, qui est tout à fait au sud du Nouveau-Brunswick. Alors, ce que ça souligne réellement, c'est d'être prudent avec une approche où on généralise tout le monde, où on met tout le monde dans le même paquet. Là. Ça mérite vraiment un examen approfondi pour chacune des communautés. Et aussi, nous, ce qu'on souligne, c'est qu'en 2019, au niveau de notre fonction publique, et ça devrait être une habileté qu'on aurait développée avec le temps.
Ouais.
Alors, si vous vouliez avoir la réponse en termes d'Hillsborough et de quels services en particulier on a besoin là, on devrait avoir au moins un semblant d'information comme ça à l'intérieur de notre appareil public, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle et ce qu'il faut améliorer.
Et en terminant, il me reste 30 secondes, le prochain sondage serait prévu pour quand?
Eh bien, on a un rapport justement sur les services à domicile. Là, dans ce cas-là, c'est qu'on a sondé ceux qui reçoivent des services et ce rapport-là va sortir d'ici quelques semaines.
OK. Merci beaucoup, Stéphane Robichaud.
Vous êtes bienvenu. Passez une bonne journée.
À vous aussi. Il est directeur général du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. Jean-Sébastien, rebranchez tous vos fils. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de te croiser. Merci également à Christiane. Et on se retrouve lundi prochain. À bientôt.